démocratique du Congo intervient sur fond de confrontation entre l'armée congolaise et les rebelles. Depuis 2021, le groupe armé M23, soutenu militairement par le Rwanda, gagne du terrain. L'an dernier, il s'est emparé des grandes villes de Goma et de Bukavu. En RDC, plus de 2 millions de personnes auraient fui les affrontements et les exactions sans savoir où aller. Nous étions en décembre dernier, Donald Trump s'est félicité d'avoir obtenu un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un deal basé sur le commerce et l'exploitation des minerais, une bonne affaire pour tous, selon le président américain.
We're going to have a lot of money and a lot of success, and we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money.
Et employé de l'UNICEF qui a donc été tué par une frappe de drone non revendiquée à Goma dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Une enquête pour crime de guerre a été ouverte par le parquet de Paris. Jean-Claude Félix Tshikaya, elle était délibérément ciblée notamment en raison des enquêtes qu'elle faisait sur les violences sexuelles, Elisabeth le disait, où elle est une victime collatérale pour vous de ce conflit.
Moi j'ai du mal avec cette expression victime collatérale, plutôt une victime innocente qui était donc en charge et qui était donc plus que la bienvenue en RDC. Ce que vous avez dit, que j'ai pu dire, c'est ce qui bruisse sur ce qu'elle pourrait compiler. Certaines ONG compilent ce qui peut se passer, bien sûr, avec les populations qui reçoivent. Mais là, j'ai deux personnes qui pourront, sur ce volet-là, avec plus de compétences sur les ONG, répondre à ma place. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été l'effroi, une consternation de plus, un drame dans les drames successifs et quotidiens depuis plus de 30 ans, dans l'Est du Congo. C'est vrai que souvent, on compile, on parle des trois décennies, mais les racines de ce conflit sont coloniales et même avant. Et ce qui est important de dire, c'est que on en reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que cet accord est complètement dans l'impasse et cet accord de cessez-le-feu n'est respecté et est entravé par personne et notamment par le M23 soutenu par le Rwanda de M. Kagame.
Justine Musique Picmal, il faut...
Comme disait mon collègue, ça fait donc 30 ans que l'Est de la RDC est en guerre. Il y a une évolution avec l'arrivée des drones, on le voit dans le monde entier. Les drones, c'est récent sur la RDC. La population congolaise est de façon permanente la première cible de toutes les attaques. Et vu que les humanitaires ont travaillé avec les Congolais et pour les Congolais, on est forcément complètement dans les mêmes cercles d'insécurité. Les drones ont aussi endommagé il y a quelques temps une autre ONG l'année dernière en fin d'année sur un bureau un peu plus haut dans le Nord Kivu. C'est la première fois dans Goma que ça attaque dans Goma. Donc un drone attaque dans la ville de Goma, dans une des villes les plus surpeuplées d'Afrique.
Alors, drones.
Tout à fait. Ces drones, ils ont modifié en très peu de temps la nature des combats. Jusque-là, il était question d'une guerre d'infanterie plutôt classique avec les forces rebelles qui dominaient le ciel congolais. Mais les choses ont changé avec l'arrivée de ces drones. 70 attaques recensées en 2025 et 31 rien que pour le mois de février 2026. L'armée congolaise, elle, s'est équipée en drones turcs ces deux dernières années. On va les voir ici, les TAI Anka et les TB2. Et en drones d'attaque longue portée chinois, les CH4 sont capables de lancer des missiles avec une portée comprise entre 3500 et 5000 km, ce qui a permis à l'armée de combler son déficit en avion et en hélicoptère. Et puis de l'autre côté, les rebelles soutenus par le Rwanda disposent, eux, de drones kamikazes turcs qui explosent sur leurs cibles. Et de drones estoniens. Ces derniers mois, ils ont visé à plusieurs reprises l'aéroport international de Kisangani, base de commandement des drones militaires de l'armée. Et puis, au mois de novembre, le Rwanda a conclu un accord de coopération militaire avec la Turquie qui prévoit notamment la construction d'une ligne d'assemblage de drones dans la région des Grands Lacs. Sonia Rollet, est-ce que ces attaques récentes de drones, c'est bien la preuve que le cessez-le-feu est complètement caduque, piétiné ?
Oui, effectivement, ça c'est une évidence que non seulement cette avancée technologique fait des victimes comme on en a rarement vu, et pourtant c'est quand même un conflit, on a vu beaucoup de victimes, mais c'est vraiment maintenant les morts ou les blessés que l'on voit sont tous liés soit à des attaques à l'arme lourde, soit à des attaques de drones. Et on a vu que c'était une course entre le Rwanda et la RDC à l'armement, puisqu'on c'est vrai qu'on parle du M23, mais en fait ceux qui fournissent en fait ces drones et tout ce qui est l'antiaérien et qu'il y avait aussi des systèmes de brouillage, par exemple, qui ont beaucoup servi justement à éviter jusqu'ici les attaques de drones sur Goma et sur les grandes villes, c'est le Rwanda qui les fournissait au M23 et qui est aussi en train de former le M23 à faire que ces attaques de drones soient aussi, puissent être aussi relayées par le M23 aujourd'hui. Donc tout le monde est sur ce niveau-là, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a plus tellement de combats. Les combats au sol sont assez limités. On se retrouve avec des combats entre groupes armés. Donc ça va être les Wazalendo, qui sont un groupe armé allié au gouvernement congolais, ou les rebelles Hutu rwandais des FDLR, qui sont alliés aussi au gouvernement. Et de l'autre côté, le M23 qui se bat sur le terrain. Il y a quand même des troupes rwandaises aussi d'élite, on sait, sur le terrain, mais on a beaucoup plus de combats finalement à distance, et c'est pour ça que ça fait des victimes sur les civils.
Il y a combien d'hommes? Il y a plusieurs milliers d'hommes, c'est ça?
Ah oui, on a des milliers d'hommes, et de chaque côté.
De chaque côté.
Beaucoup de recrutement. Au départ, c'était beaucoup plus de troupes rwandaises que de rebelles. Depuis, les rebelles, quand même, ça fait des mois là, qu'ils ont recruté, qu'ils forment. Voilà, c'est une rébellion qui s'est mise en place petit à petit. Au début, le problème était limité, et encore, on pouvait dire il y a un an que le problème était assez limité, un an et demi, mais là, aujourd'hui, on se retrouve avec des milliers, voire des dizaines de milliers d'hommes sur ce terrain, et ça sera compliqué à résoudre.
Ouais. Je crois que c'est qu'on comprend. Historique, il faut faire attention avec le mot génocide, c'est-à-dire que beaucoup de réfugiés, donc, pendant le génocide, se sont réfugiés au Congo, et notamment une partie armée par rapport au génocide. Et malheureusement, le président congolais actuel a du mal à se séparer donc de ce groupe. Donc on peut comprendre Monsieur Kagame, mais ça lui
le
donne
président
pas
rwandais.
Monsieur Kagame, le président rwandais, mais ça lui donne pas porte ouverte pour piller les sous-sols et matières premières, parce que le Rwanda se trouve aux premières places des matières premières, alors qu'il en a très peu, voire pas à l'intérieur de des classements internationaux. Pareil pour Monsieur Museveni, président de l'Ouganda, qui lui aussi
est voisin aussi.
Parler. Donc c'est pas seulement une problématique RDC-Rwanda, c'est régional, voire continental, avec les multinationales qui ne parlent pas trop, voire qui se taisent, parce que parfois ils peuvent avoir des prix discount. Et puis ce qui est pris en RDC est acheminé donc au Rwanda. Et d'ailleurs, les accords de M. Trump signés par M. Kagame, ben, c'est comme s'ils validaient ce que faisait de manière frauduleuse le Rwanda. Donc c'est habile, mais ça bafoue le droit international et tout ce qui génère tous ces morts au quotidien.
Oui. Ils signent des accords, ils en signent, ils se voient. Même le M23 et le gouvernement se sont vus régulièrement à Doha ces derniers mois. Il y a des annonces qui sont faites par les médiations. Donc on avait la médiation de Doha et puis la médiation de Washington dans ce dossier. Puis après la médiation africaine aussi qui était là. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils signaient pour ne pas respecter. Le premier accord d'ailleurs qu'ils ont signé, qui était en juillet, c'était un accord entre le Rwanda et le Congo, qui était en fait un accord négocié à l'époque par la médiation angolaise, repris tel quel par les Américains, qui n'arrivaient même pas à les faire négocier à ce moment-là, et où ils ont dit simplement « vous vous engagez à respecter ce que vous étiez déjà engagé à respecter ». Et tout le monde avait annoncé un accord incroyable entre sous l'égide des États-Unis, mais c'était entièrement faux. Tous les calendriers qui ont été donnés n'ont jamais été respectés, il devait y avoir des échanges de prisonniers jamais respectés, il devait y avoir le développement de missions sur le terrain pour observer le cessez-le-feu jamais respecté, jamais respecté. Donc là, c'est vrai que on est sur quelque chose où c'était... Alors, il y a quand même du côté des Américains quelque chose qui existe, c'est-à-dire une pression sur les deux pays qui fait que chaque fois que le M23 et le Rwanda avancent trop, et notamment trop vers ces ressources minières qui sont aussi au Katanga et dans le Lualaba, donc au-delà des limites pour l'instant du M23 et du Rwanda, mais qui sont pas très loin, qui sont aux portes et qui intéressent beaucoup les Américains. Là, les Américains mettent un coup d'arrêt quand ça devient des grosses, grosses, grosses exploitations minières. Mais bon, en tout cas, à part cette pression-là qui fait que le M23 se retire et le Rwanda se retire,
rien n'évolue.
La guerre en RDC, c'est une arme de guerre depuis 30 ans. Le viol est une arme de guerre depuis 30 ans sur la RDC. On a des dizaines de groupes rebelles sur la RDC. C'est, on dit chez nous, celui qui comprend la RDC, c'est qu'il n'a pas compris la RDC. Donc c'est assez clair. Il y a des groupes partout et l'arme de guerre sur les femmes et sur les enfants, le viol massif, façon régulière, arrive tout le temps.
Et en même temps, est plus qu'impliqué, comme on vient de l'expliciter, et soutient donc le M23. Et tout, Donc ceux qui ont
bafoué, ceux qui ont le Rwanda, ceux qui ont bafoué donc en premier les accords de cessez-le-feu, c'est le 23, c'est qui a soulevé le courroux de monsieur Trump, qui signe aussi, faut bien le dire, ces accords de paix qui sont plus des accords de paix géopolitiques et économiques, voire ultra libéral. Et plus que capitaliste et sans vergogne, je le dis de manière assez franche, parce que
comme il le dit lui-même, en disant on va se faire de l'argent, on va se make money.
Voilà, oui, j'allais justement ressortir cette phrase qui est d'un cynisme incroyable. Oui. On parle de choses effroyables comme on vient de le faire tous les trois et vous-même, et on voit que cet accord, il n'est pas respecté aussi parce que l'interlocuteur est aussi sans vergogne, malgré sa puissance géopolitique et géoéconomique. La RDC aussi, le théâtre géoéconomique et avec la Chine et d'autres puissances et aussi les voisins qui ne sont pas, et notamment l'Ouganda, qui essaie de se faire discret sur le plan médiatique et géopolitique, mais on voit bien que c'est beaucoup plus multidimensionnel et multiforme, ce conflit. Là, bien sûr, les premières victimes sont les femmes, les enfants et autres depuis plus de 3 décennies. Et il est important, je vous remercie d'ailleurs Arte, de refaire une lumière sur ce conflit.
Ce conflit notamment, oublié, entre guillemets.
Et notamment les humanitaires qui sont autant en danger que les populations avec lesquelles elles travaillent. Donc il est important, peut-être que la communauté internationale, c'est vrai qu'elle a les projecteurs sur d'autres conflits, mais celui de la RDC est vraiment à prendre en considération.
Et plutôt justement dans cette zone qui est contrôlée par le M23, avec cette mine de Rubaya qui est sous son contrôle, mais qui avant était sous le contrôle d'autres groupes armés, et ce qui pose quand même un problème.
À quoi ça sert le coltan?
Ça sert aux téléphones portables.
Téléphones portables, moteurs électriques.
Voilà, c'est ça, pour les ordinateurs, etc. Donc ça sert aux majors de la tech, c'est-à-dire Apple, Samsung, Huawei, etc. Et c'est quand même un gros contributeur en termes de coltan. C'est à peu près, il peut y avoir des chiffres, mais si on est conservateur, on va dire 20% de la production mondiale de coltan. Donc ça reste énorme. On a toujours eu des problèmes en fait de traçabilité de ces minerais. D'ailleurs, il y avait eu une plainte qui avait été déposée par le gouvernement congolais contre Apple pour justement blanchiment en fait de ces ressources minières juste avant ce conflit-là, donc qui existait déjà. Et surtout, il y a des richesses qui intéressent les Américains, mais qui aujourd'hui sont les richesses qui ne sont pas dans la zone contrôlée par le M23, c'est-à-dire c'est le Katanga, où aujourd'hui on voit arriver le DFC, qui est une institution créée par les États-Unis, qui, avec d'autres acteurs, et notamment des entreprises américaines, qui viennent pour investir dans les quelques mines qui n'étaient pas sous le contrôle des Chinois.
Et qui viennent chercher quoi?
Ils viennent chercher du lithium, ils viennent chercher du cobalt. Et le problème, c'est qu'ils viennent avec des acteurs, ou ils viennent pour soutenir des acteurs qui sont en fait liés à des réseaux de corruption. Et ils sont énormes.
Et au-delà des scandales de corruption, Justine Musique Pikmal, il y a aussi des conditions de travail qui sont proches de l'esclavage moderne, des histoires de déforestation, enfin sur le plan environnemental et des droits humains, c'est un saccage.
Alors oui, et en fait c'est compliqué pour, je pense, tout le monde de comprendre comment ça fonctionne en RDC, mais en fait l'est du Congo, c'est un maillage de petits États avec donc des groupes rebelles dont on parlait juste avant, et en fait il n'y a pas de protection des droits humains dans toute cette discussion, il n'y a pas de protection des humains. Quand on parle d'un drone qui tape sur Goma. Le quartier dans lequel a tapé le drone, c'est un quartier dans lequel habitent des Congolais. Donc, habitent des humanitaires, habitent des Congolais. Donc oui, il y a un groupe qui vit là-bas. Et en même temps, c'est une zone extrêmement habitée. Mes collègues de travail travaillent là-bas.
À propos des mines, des conditions de travail dans les mines, c'est des conditions...
Il n'y a pas de cadre de travail, en fait. Les enfants en bas âge vont travailler dans les mines. Il n'y a pas de cadre de travail aujourd'hui sur ces zones-là.
Les qui sont industriels, on a de l'artisanal qui se fait dessus. Donc il y a toujours des enfants qui travaillent dans les mines partout. Donc dès qu'il y a des écroulements, des glissements de terrain, en fait, il y a beaucoup de morts, et notamment des enfants.
Parmi les enfants et parmi les mineurs. C'est pas nouveau. On va évoquer la richesse des sous-sols en RDC qui venait d'enverser le régime de Mobutu. Et là, c'est la ruée vers l'or.
Ils se sont remis à la tâche comme si de rien n'était. Dès sa prise de contrôle des mines d'or à l'est du Zaïre, Laurent Désiré Kabila a ordonné aux orpailleurs de reprendre le travail. Sur ce travail, il lèvera des impôts comme le faisait Mobutu. Il lui faut bien faire tourner sa machine de guerre. La zone que Kabila et ses hommes contrôlent déjà regorge d'or. Son objectif annoncé désormais, le sud est la ville de Lubumbashi, capitale du cuivre et du cobalt. Sur la route de Kinshasa ensuite, il y aura les mines de diamants, du Kassai. Pour ces trois derniers, le Zaïre reste incontournable. Premier producteur mondial de cobalt, deuxième de diamants, cinquième pour le cuivre. Un véritable scandale géologique que ce Zaïre a se demandé comment un pays au sous-sol si riche a pu tomber aussi bas.
Plus que présente. Hein. Et d'autres,
Russie,
c'est vraiment.
La Russie.
La Russie n'est pas loin.
N'est pas loin.
Et puis d'autres, ce qu'il faut comprendre, ce qui a été dit et souligné, c'est quand même la faillite des gouvernements et des présidences successives. Mm. C'est important parce que là, on a vu la carte de la RDC, c'est à peu près sur le plan de la superficie, l'Union européenne. Kinshasa, c'est à peu près entre 1500 et un peu plus et 2000 km. Goma, l'Interland est complètement quoi, pas toujours efficace, et c'est pour cela aussi que d'une manière habile tout ce qui est pris frauduleusement, c'est un euphémisme, et ben va vers le Rwanda, qui va rester de manière extraordinaire un des plus grands producteurs entre guillemets de cobalt et autres.
Seigneur Rollès,
bonne source de financement d'ailleurs, comme tout ce qui est barrière, parce qu'il y a des commerçants qui sont là, et puis il y a des barrières qui sont installées et qui permettent aussi aux groupes armés de tenir. D'ailleurs, c'est l'une des raisons. Au début, on a vu que le M23 se tenait un peu éloigné des mines quand il pensait pouvoir négocier assez facilement un accord de paix au tout départ. Et puis à un moment, parce qu'ils ont grossi, ils ont eu besoin de ressources, et que le Rwanda n'a pas forcément complètement les moyens de ça, et bien on a vu qu'ils se sont mis à exploiter. Et puis là, on a une quarantaine quand même d'exploitations qui sont de artisanal, mais qui sont quand même des exploitations qui...
Et on sait à peu près combien elles rapportent, ces mines ?
On a quelques estimations de l'ONU, mais franchement, c'est pas assez par rapport à ce qu'on voit. On voit que c'est vraiment énormément, et notamment pour l'or, qui est beaucoup plus difficile à tracer, c'est compliqué, mais c'est des centaines et centaines de milliers, voire des millions de dollars sont... On est vraiment sur des chiffres comme ça.
Qu'on prenne des boucliers humains dans les guerres, qu'elles soient au Congo ou ailleurs aujourd'hui, je trouve que de rappeler qu'on n'est pas des cibles, nous, humanitaires, déjà me fait mal, parce que en fait, les êtres humains ne devraient pas être une cible tout court. Les Congolais aujourd'hui souffrent absolument de tout. On a la rougeole, on a le choléra, on a la variole du singe. Donc toutes les maladies du monde se retrouvent dans ce pays avec un manque de médicaments flagrant aujourd'hui sur donc, le petit Kivu dont on parlait tout à l'heure à Goma.
Allez y rester malgré les menaces?
Alors nous, en fait, la menace du drone était une menace qu'on avait déjà anticipée. C'est différent de savoir de se dire qu'on a des bombardements aériens qui se font à 15 km et qui se font en centre-ville. Donc forcément, les équipes congolaises expatriées sont plus inquiètes. Par contre, c'est une menace qu'on avait identifiée il y a 5 ans. Les avions bombardiers RDC, malheureusement, c'est pas d'aujourd'hui. Mais juste rappeler qu'en fait, les populations ne sont pas des boucliers.
Ni des boucliers.